Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Judard, le 15 novembre 89.
Nous avons précisé hier comment l'intelligence qui veut connaître de la manière la plus profonde, ce qui est comme être, est conduite à rassembler dans une dernière induction les diverses expériences des parties de la philosophie. En regardant ces deux états constants que nous trouvons au niveau de la philosophie du facere, de la philosophie de l'agere, de la philosophie de la matière, de la philosophie du vivant. Et même, on pourrait prendre à propos première partie de la philosophie première, le point de vue substance, je n'en ai pas parlé hier, mais on peut. On constate toujours ces deux états, un état parfait et imparfait, à tous ces niveaux. Et on voit toujours l'ordre qui existe entre l'imparfait et le parfait. Ça, c'est une constatation. Donc, on peut tous comprendre ça. À partir de là, l'intelligence interroge pour comprendre ce qu'est cet état de perfection. Qu'il signifie au niveau de l'être, puisque de fait il se retrouve dans les diverses modalités des expériences de ce qui est. Seul l'être unifie toutes ces expériences. Ultime à tout ce qui est en puissance, à tout ce qui est dans l'ordre imparfait et ordonné à ce qui est en acte, à ce qui est parfait. Et sous cette interrogation, je découvre donc l'être en acte comme fin de ce qui est. Vous voyez, Aristote appelle cela induction synthétique analogique. C'est intéressant à voir. C'est un effort ultime de l'intelligence de saisir l'unité à travers la diversité, l'unité de ce qui est. Qu'est-ce qui unifie profondément la diversité des réalités existantes? Qu'est-ce qui leur donne leur signification ultime en les unifiant? Ça ne peut être que l'être en acte. Vous pourriez reprendre cette induction par mode d'impossibilité comme une confirmation. L'être en puissance, l'être imparfait, n'unifie jamais. L'être imparfait est toujours source de multiplicité. Et toujours ce qui, de fait, se donne dans la multiplicité et la diversité. Seul l'être en acte unifie et permet, par le fait même, de donner la signification à tout le reste. C'est un argument critique, en quelque sorte, à côté de l'induction, et donner la difficulté de cette induction. Difficulté parce que cette induction implique toutes nos expériences humaines. Elle est ultime. Et donc, elle fait appel à toutes les autres expériences que je puis avoir. Elle les unifie et elle leur donne sa signification. Mais qu'est-ce qui unifie la diversité de ces expériences? C'est l'ordre de ce qui est imparfait vers le parfait. Autrement dit, il faut bien comprendre sur quoi porte cette induction. Elle porte sur la diversité des états imparfait, ordonné à un état parfait. Et les états, je constate les états. Les états, c'est une manière d'être. Une manière d'être. J'existe d'une manière imparfaite. Le petit enfant, dans son berceau, il existe d'une manière imparfaite. S'il restait tout un petit enfant, sa mère s'inquiéterait. Il ne grandit pas, ce petit bout. C'est pas normal. Il est fait pour autre chose. C'est très simple, mais c'est la simple constatation de fait, de ça, hein, que la mère s'inquiète parce que l'enfant ne grandit pas. C'est quand même très curieux. Pourquoi, quand vous mettez une graine dans la terre, vous vous inquiétez qu'elle ne pousse pas? Pourquoi? Parce que l'être imparfait est fait pour l'être parfait. Et donc, ce qui est en puissance est fait pour être en acte. C'est élémentaire, c'est au cœur de toutes vos expériences. Connu comme ça une mère qui s'inquiétait pour le premier enfant. Je me souviens, c'était une petite valaisanne, merveilleuse, paysanne, qui sortait de sa montagne quand elle avait ce petit enfant. Mais mon père, il grandit pas. Ben, je ne voyais pas, il grandit pas. Il reste toujours comme ça. C'est pas normal. Le voir grandir, regardez. Ce qui est dans un état d'imperfection demande d'être dans un état de perfection. C'est très curieux, ça. Ça prouve que profondément, dans notre intelligence, nous avons un sens de l'être en acte. Et alors l'ontologisme confond l'être en acte et Dieu. Il dit, nous avons un sens de Dieu présent à tout. Non, c'est pas Dieu, c'est l'être en acte. Il y a une thèse, je ne sais plus le titre, mais qui a été écrite en Ontario, oui, je crois qu'à Montréal, au Canada, sous la direction de Gilson, que l'être en acte chez Aristote, c'est Dieu. C'est intéressant parce que c'est la projection de tout l'ontologisme sur Aristote. Aristote n'a jamais compris que l'être en acte était Dieu. Mais on voit très bien comment des bonnes âmes croyantes confondent cette inspiration profonde avec la foi. La foi est liée à l'espérance. Pour la foi, pour le croyant, c'est vrai. C'est parce que Dieu est présent que ça doit progresser. Mais pour le philosophe, il distingue l'être en acte et Dieu. Mais il y a dans le jugement d'existence, ceci est déjà l'être en acte. Et donc ceci est, mais d'une façon très très enveloppée, d'une façon très imparfaite. Et c'est là où peut-être on voit comment Heidegger n'a pas poussé jusqu'au bout sa critique de considérer que la métaphysique, la philosophie première, ne devait pas partir de l'idée, mais de la réalité. Et la réalité, c'est l'être en acte. Dans les temps, ceci est, je constate n'importe quoi, eh bien, il y a déjà l'acte présent. Pas seulement la substance, mais l'acte. Parce que de fait, n'importe quelle réalité existante possède en elle quelque chose qui est l'acte d'être. Et c'est pour ça que quand je vois un être imparfait, je comprends qu'il ne peut pas rester comme ça. Il doit aller jusqu'au bout. Alors, les divers états imparfaits ordonnés, et tout est là-dessus, hein, ordonnés à des états parfaits. Je constate cet ordre à tous les niveaux. Aux quatre niveaux. Je ne prends pas le niveau politique, vous voyez. Aux quatre niveaux. Au niveau du fat chéré, au niveau de l'amour d'amitié, au niveau de la matière, au niveau du vivant. Et d'une certaine façon, aussi au niveau de la substance. Mais la substance individuée. Mais ça, c'est plus subtil. Mais on pourrait prendre ces cinq niveaux. Cinq diversités. Et j'interroge. Qu'est-ce qui donne à l'être son ultime signification. Vous vous souvenez, c'était l'interrogation déjà que j'avais prise pour la substance. Je peux le faire, c'est pas la seule interrogation. Mais elle est intéressante. Qu'est-ce qui donne à l'être son ultime signification? C'est vrai, parce qu'un état imparfait n'est parfaitement intelligible que lorsque je suis en face d'un état parfait. Le gland. Vous ne connaissez le gland que lorsque vous voyez le chêne. Ça, c'est sûr. La mère considère que le petit enfant, il doit grandir à cause de son mari, qui est l'homme parfait, puisque c'est son mari. Donc, nécessairement, c'est l'homme parfait. Et le petit bout de chou, il doit être un homme parfait. Il ne peut pas rester comme ça. Toujours, la signification ultime réclame l'être en acte. Donc, j'interroge, quelle est l'ultime signification à travers ces états, l'ultime signification de ce qui est. Aucun des états imparfaits me donne l'ultime signification. Donc je dois pousser jusqu'au bout pour découvrir ce qui est en acte. Donc, quelle est l'ultime signification de ce qui est? Non seulement la signification, mais je peux dire qu'est-ce qu'il y a d'ultime, tout simplement. et t'a donné cet ordre. Et sous le point de vue de cette interrogation, en partant toujours, hein, n'oubliez jamais, ces divers états existent. Hein. Le jugement d'existence est présent. Donc sous le poids de cette interrogation, mon intelligence ne peut s'arrêter dans cette induction qu'en face de ce qui est en acte. L'être en acte. Séparé de l'être en puissance. Alors, toute la difficulté de cette induction, c'est de voir que je pars des états pour aboutir à un principe. Chez Avicenne, l'Avicenne latin, parce que l'Avicenne arabe, je ne peux que m'appuyer sur ceux qui savent parfaitement l'arabe. J'avais lancé un étudiant phénicien. Il habitait la Syrie, mais il se disait toujours phénicien. Il ne se disait pas du tout syrien. Il était chrétien. Pour voir si Avicenne, arabe, avait saisi l'induction d'Aristote. Il m'a prétendu que oui. C'est intéressant comme thèse. Phénianos. Vous devez avoir la thèse. Phénianos, pareil que c'est phénicien, ça. Alors, l'Avicenne latin, c'est très net, passe des états et aboutit aux états. C'est très très curieux. Et quand vous regardez saint Thomas dans les sentences, vous voyez que saint Thomas est encore dépendant d'Albert le Grand. Il faut citer Albert le Grand aujourd'hui. Dépendant d'Albert le Grand, qui lui passe des états à l'état d'être, status, et non pas au principe. Ah, vous voyez la différence, le status, l'état, un état. Bon, l'état reste au niveau du pous, le principe est au niveau du tiesti. Si je passe d'état multiple à un état d'être, je n'ai pas une véritable induction. J'ai une induction baconienne. Hein, tout le monde connaît les inductions de Bacon. On passe d'un état à un état. On ne saisit pas un principe. On reste dans l'ordre quantitatif et non pas qualitatif. C'est intéressant du reste de voir ça que très vite, l'induction qui est très subtile retombe dans une induction quantitative. On passe du multiple à l'unité, tout simplement. On passe d'état multiple à un état qui unifie. Mais on ne saisit pas l'au-delà de l'état pour saisir un principe. C'est assez subtil. Et c'est intéressant à voir ça. C'est le passage d'Albert le Grand à Thomas d'Aquin. Alors c'est ça qui est le plus subtil dans cette induction. Je constate des états divers et je saisis l'être en acte comme fin. Et non pas simplement l'état dans l'ordre de l'être, ce qui ne m'avancera à rien. L'être en acte. Et je prends cette confirmation pour montrer que, en dehors de l'être en acte, toute la diversité des états de ce qui est, au point de vue imparfait, sens n'est jamais premier. Alors, voyez, c'est assez curieux comme induction, mais c'est intéressant. Nous avions vu la première induction de la substance, l'écart entre substance première, substance seconde, et l'au-delà, qui est l'ousia, la substance principe. Ici, je vois l'écart des états imparfaits vers les états parfaits. Et je saisis un principe. Il y a quelque chose d'analogue. Je ne peux pas rester dans la dualité. La dualité se donne dans l'ordre. Il faut dépasser l'ordre et comprendre qu'au-delà de l'ordre qui existe entre ces états imparfaits et l'état parfait, il y a un principe. Il y a une cause. Et cette cause, c'est l'être en acte. Qui rend raison, qui est cause et principe de cette diversité d'états et de l'ordre de l'imparfait vers le parfait. Prenez tout simplement, pour que cette induction vous la fassiez tous les matins, le passage du sommeil à l'état d'éveil. Tous les matins, vous passez normalement, vous avez dormi, et vous vous réveillez. Un réveil matin qui est toujours trop matin. Donc, vous sortez de cet état d'imperfection du sommeil, parce que pour moi, c'est un état d'imperfection. J'espère pour vous aussi. Pour Freud, c'est pas un état d'imperfection. Toute la différence qui existe entre Freud et Aristote, c'est que Freud exalte le sommeil, Aristote exalte l'éveil. Alors c'est l'état d'une civilisation. Le grec est éveillé. L'européen du XXe siècle préfère dormir. C'est sûr, autrement ça ne passerait pas. Si Freud passe, ça prouve que tout le monde est d'accord. Enfin, du démocratique, la vérité, c'est la majorité. Donc, si vous avez ce point de vue-là, la majorité des gens considèrent que c'est beaucoup plus parfait de dormir. Tous les matins, vous passez de l'état de sommeil à l'état d'éveil. C'est curieux. Et donc vous passez d'un état d'imperfection à un état de perfection. Et si vous êtes très éveillé, vous découvrez l'être en acte. En vous. J'éveillé. C'est l'être en acte. Alors, de temps en temps, vous êtes éveillé d'un œil. Vous restez encore dans l'état. C'est pas encore l'être. Et puis, de temps en temps, vous êtes parfaitement éveillé. Et là, vous atteignez l'être en acte. Qui est fin. Qui est ultime. Nous pouvons tous saisir ça. On le saisit instinctivement. On sent qu'il y a ça. On sent. Ce petit doit grandir. Cette semence, elle n'est compréhensible que dans son âme. Tout le monde est d'accord. Et tout le monde fait l'inverse. Je prends un exemple classique. J'explique le Nouveau Testament par l'Ancien. Je suis devant un état d'imperfection vis-à-vis d'un état de perfection. Et tout le monde suit. C'est extraordinaire, ça. Mais comme on est freudien, jusque-là, vous voulez expliquer le Nouveau Testament par l'Ancien. L'Ancien, c'est l'état d'imperfection. Le Nouveau, c'est l'état de perfection. Mais quoi? Est-ce que le chêne s'explique par le gland? Ou est-ce que c'est le chêne qui me fait comprendre le gland? Elle va dire, ah, mais l'état génétique, oui, le conditionnement, mais pas la signification ultime. Le pose, mais pas le diesti. Je donne exprès ces exemples multiples pour que petit à petit, vous arriviez à comprendre la différence entre le conditionnement et la réalité. On croit que comprendre le conditionnement de quelqu'un, ça fait comprendre sa finalité. Mais non. La finalité est au-delà de tout conditionnement. Ici, alors, c'est vraiment l'ultime moment de mon intelligence. Mon intelligence est parfaitement éveillée que lorsqu'elle saisit d'être en acte. Donc si maintenant vous saisissez d'être en acte, vous avez fait un pas en avant extraordinaire. C'est l'Himalaya. La substance, c'est le Mont Blanc. C'est toujours un peu rond. Tandis que l'Himalaya, c'est l'ultime. C'est l'Himalaya de notre intelligence, d'être en acte. Et c'est ce qu'il y a de plus proche de nous. Je vous dis, c'est ce qu'il y a de plus proche. C'est-à-dire, l'être en acte, c'est l'éveil de l'intelligence. Ceci est. Et parce qu'il est. Il est au-delà de tout état potentiel. Ah, il peut impliquer une potentialité, mais il est. Alors, nous allons maintenant, sans insister dessus, parce qu'on pourrait insister, vous voyez, sur la différence de l'être en acte et l'être substance. C'est deux moments très importants de ce qui est. C'est deux principes de ce qui est. C'est deux structures de ce qui est. La structure de l'être, c'est l'ousia. Et l'acte, c'est ce qu'il y a d'ultime. L'acte structure en impliquant le point de vue de la substance et en montrant comment la substance existe. Donc elle est dans un état, elle est ultime et elle est dans un état parfait. Alors, à partir de cette saisie, ou si vous voulez, à partir de cette division. Les deux grandes divisions de ce qui est en tant qu'être. Substance, qualité, être accidentel, c'est encore mieux. Les modalités de l'être, première division. Deuxième division, l'être en acte. L'être. Divisé comme ça. L'être en puissance. Ce qui serait très intéressant, au point de vue métaphysique, c'est de bien comprendre l'ordre différent de la qualité à la substance et de l'être en puissance à l'être en acte. Et ça, nous devons tous penser à ça, parce que c'est les divisions de ce qui est comme tel. Et pour pénétrer plus avant dans ce qui est, il faut bien comprendre toute division des voiles. Ce qu'il y a de plus profond. Si on divise, c'est pour dévoiler. La division sépare. Oui. Les secrets des cœurs. Ici, c'est le secret de l'être. Et on divise pour découvrir le secret de l'être. Quel est le secret de l'être? C'est l'ousia, c'est l'être en acte. Et l'être en acte et l'ousia sont deux secrets tout à fait différents. Sont deux principes tout à fait différents. L'un est source de toutes les déterminations, de toutes les qualités. L'autre est les états potentiels. Et le point de vue de l'être en acte nous fait découvrir un secret ultime, tandis que la substance ne fait pas découvrir un secret ultime, un secret fondamental. C'est pour ça que c'est très important de bien saisir l'ordre différent des deux. Ce sont les deux grandes divisions. Alors, on comprend très bien, ce sont les fondements de nos deux connaissances analogiques. Puisque l'analogie, c'est saisir l'unité dans la diversité. Alors, vous avez deux types de connaissances analogiques. Celle au niveau des formes, des qualités et de la substance. Celle au niveau de la diversité des potentialités. De ce qui est. À l'égard de l'être en acte. La diversité des états potentiels à l'égard de l'être en acte. Il y a deux analogies différentes, deux types d'analogies très différentes. J'espère que vous voyez ça, c'est important ça. Une analogie du côté des déterminations et une analogie du côté de la fin. Alors je crois que c'est ce qu'on appelle d'une façon traditionnelle l'analogie d'attribution et l'analogie de proportion. Les êtres en puissance sont ordonnés à l'être en acte. Et de l'autre côté, au contraire, c'est toutes les déterminations qui sont ordonnées à la substance. Donc là, il faut bien comprendre, et ça nous aide à comprendre qu'est-ce que ça apporte quand l'intelligence saisit l'être en acte, l'intelligence pénètre dans ce qui est d'ultime. Vous voyez, l'alpha et l'oméga se tiennent. Je suis parti du jugement d'existence. Ceci est, ça c'est l'alpha. Et ici, c'est l'oméga. Eh bien, ils sont très proches. Ils sont distincts, mais ils sont très proches. Ceci est, c'est le fait d'exister, c'est la constatation, c'est l'expérience. Et là, c'est la saisie d'un principe ultime, une fin. Mais c'est très proche. Donc, une fois que j'ai saisi ce point de vue-là, je vois que l'être en acte, à la différence de la substance, la substance, elle, subsiste. L'être en acte sépare. Je ne dis pas qu'il subsiste, il est. Mais il sépare. C'est très curieux. Segregatus ut imperet, fameuse parole d'Anaxagore. L'être en acte sépare. Dès qu'on est en acte, c'est l'être qui touche sa fin. Il est séparé, il est libre. Séparé veut dire libéré. On est libéré de tout ce qui est, tout ce qui colle, d'être en puissance. À partir de là, je vois tout de suite que l'être en acte se donne à moi selon diverses modalités. L'être en acte est premièrement l'essai par rapport à la substance qui subsiste. La substance qui subsiste, ce n'est pas la substance prise comme principe, mais c'est la substance prise dans sa réalisation première. opérations vitales. Cinquièmement. Ceci est au niveau de l'esprit. Au niveau de la volonté. Au niveau de l'intelligence. Les opérations vitales, c'est au niveau des puissances vitales. Et le mouvement, c'est au niveau du corps. Voyez, si vous êtes un peu attentif, vous voyez que je me suis servi de toutes les parties de la philosophie pour découvrir l'être en acte. Et une fois que je découvre l'être en acte, je regarde dans les différentes parties de la philosophie où je découvre l'être en acte. Je découvre l'être en acte dans la substance. Dans la substance subsistant. Et je découvre là que l'essai, c'est actus essens. Toujours saint Thomas. Voilà. Petite considération ici, un petit nota bene pour notre cher ami Gilson, pour notre cher ami Maritain, pour notre cher ami Fabreau. Un nota bene pour eux. La philosophie première de saint Thomas se distingue de la métaphysique d'Aristote parce que, pour eux, la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai. Donc, dans la perspective d'un Gilson, d'un Fabreau et d'un Maritain, l'essai est quelque chose, est un regard plus pénétrant dans l'être que l'être en acte d'Aristote. C'est ça que je conteste. Je dis non, c'est faux. Alors c'est une question d'école, mais qui est intéressante parce que, de fait, tous les thomistes aujourd'hui suivent ou Gilson, ou Maritain, ou Fabreau. Donc c'est pas une petite question. Question qui vraiment joue un rôle très important. Ou alors ne pense pas. Il y en a encore. Il y a des thomistes qui répètent, qui suivent les manuels thomistes. On suit la scolastique. La scolastique dit ça très bien. Il y a là un problème très très important pour moi. Comment saint Thomas, chaque fois qu'il regarde l'essai, pas toutes les fois, puisqu'il y a 5 ou 6 significations de l'essai. J'ai fait exprès un petit fascicule là-dessus. Pour le trouver, les significations de l'essai dans un Thomas. Pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est intéressant, du reste, pour comprendre saint Thomas. Saint Thomas emploie le mot essai dans des significations très diverses. Mais la signification la plus métaphysique de l'essai, c'est toujours actus essenti. Donc, si je suis attentif, je vois que l'essai s'explicite, s'exprime par l'acte. Ce qui prouve que l'acte m'aide à comprendre l'essai. C'est tout simplement une notion logique, ça. Quand je définis quelque chose par autre chose, c'est parce que cette autre chose est plus intelligible pour moi. Autrement, je ne le définirais pas comme ça. Jamais saint Thomas dit que l'acte, c'est l'essai. Oui, il peut le dire. Il peut dire que l'essai est acte. Mais il ne fait pas comprendre l'acte par l'essai. Donc, l'acte est avant l'essai. L'essai est un mode de l'acte. Question de langage. Mais question très importante. Actus essendi. L'acte de ce qui doit être. définit l'essai par l'acte. Ce qui prouve que pour saint Thomas, la métaphysique de l'acte me permet de préciser ce que c'est que l'essai. Mais l'essai n'est pas ce qu'il y a d'ultime, c'est une des modalités de l'acte. C'est l'acte au niveau de la substance. La substance demande d'exister. Et la métaphysique de l'essai chez saint Thomas prend une place énorme parce qu'il est théologien. En tant que théologien, qu'est-ce qu'il y a de tout à fait premier ? C'est le mystère de Dieu. L'ipsum esse subsistens. Dieu dans sa simplicité. Et l'ipsum esse subsistens. Dieu est créateur. De laisser participer. Et c'est vrai, là je suis en face de l'infini, là je suis en face du fini. Oui, c'est bien les deux grandes modalités de laisser. Laisser qui subsiste en lui-même et laisser qui est participé. Mais pour comprendre ces deux affirmations, il faut les dépasser dans l'être en acte. L'être en acte n'est pas Dieu, mais l'être en acte me donne l'intelligibilité la plus profonde de l'ipsum esse subsistens et de l'esse participe. L'être en acte. Saint Thomas nous dit que ens est au-delà, au point de vue de l'intelligibilité, de l'infini et du fini. Au-delà. Pas le concept d'être, c'est ce que dira Suarez, mais l'ens, in quantum ens, la ratio entis, saisie dans la réalité, n'est ni créé ni agréé. Autrement, il n'y a pas de métaphysique. Tout se tient. Une fois qu'on a saisi ça, on comprend comment l'être en acte est saisi comme fin de ce qui est. Et donc, au-delà, au point de vue de ma saisie de l'ipsum esse subsistens et de laisser participer. Et donc, l'essai se définit par l'acte et non pas l'inverse. Donc la métaphysique de saint Thomas est bien la métaphysique de l'acte et non pas la métaphysique de l'essai. L'essai est une application, la première application, l'application la plus manifeste. C'est très vrai, les deux extrêmes, l'ipsum esse subsistens, laisser participer, l'infini et le fini. Et au-delà de cela, il y a l'être en acte. Ipsum esse subsistens égale l'acte pur. Laisser participer est limité. S'il est limité, il est reçu. S'il est reçu, il n'est pas pur. Tout ce qui est reçu est contaminé par celui qui le reçoit. Et ça, c'est le propre de laisser participer.